Bertrand Malquier est maire de Narbonne pour cette deuxième partie de ce Radio Barque. On va rester encore, si vous le voulez bien, dans votre compétence mairie. Donc je m'adresse au maire de Narbonne. Des rumeurs ou des informations peut-être incomplètes ont circulé et un certain nombre de Narbonnais se posent la question. Aujourd'hui, quid du parc des expositions pour l'avenir ?
Alors, le rôle de la ville ou de l'agglomération, c'est d'aller au bout des choses et savoir comment optimiser l'espace public, comment mieux utiliser les équipements qui composent à la fois l'agglomération et la ville. Le parc des expositions est une compétence gérée par l'agglomération au titre de la compétence économique. Et ce parc des expositions a été défaillant en matière de réservation. Il y avait de moins en moins d'événements. L'après-Covid a nuit à ce format. Et aujourd'hui, il a été décidé de le reprendre, le temps de la réflexion, en régie. Et donc, c'est un service du Grand Narbonne. Et ça marche pas mal, qui commercialise l'espace du parc des expos. Aujourd'hui, il y a une trentaine de dates déjà réservées sur 2024. Il y a une reprise dynamique du parc des expositions. Donc nous avons exploré tous les champs des possibles au niveau du parc des expositions, jusqu'à sonder des casinotiers pour savoir si ça les intéressait.
Oui, il y a eu une rumeur de casino.
Il y a eu une rumeur, mais qui part sur des faits réels. De toute façon, il y a rarement des rumeurs qui ne sont pas fondées. À partir du moment où on fait une réunion et qu'on est plus de deux, c'est l'information est presque publique. Donc on a sondé les casinotiers pour savoir s'il y avait un intérêt. Effectivement, ils ont tous manifesté un intérêt pressant pour s'installer dans ce carrefour de l'Europe du Sud au niveau du parc des expositions. Et donc on a regardé quels étaient les avantages pour la ville parce qu'il y avait une rentrée fiscale importante. Mais nous avons décidé, la majorité municipale, nous avons réfléchi très rapidement et nous avons finalement écarté ce projet de casino pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes dans une ville où il y a de la précarité, elle est prégnante et on n'est pas très fan de casinos. Il y en a déjà présents sur les plages, à Valras, à Gruissant, à Leucate, à Port-la-Nouvelle. On a peur que ça devienne finalement un outil qui rajouterait de la précarité à la précarité et que ce public se perde dans les vices des jeux. Donc
il y a une image de marque qui est pas forcément bonne pour tout le monde.
Non, il y a une image qui est pas très bonne et nous avons pas voulu prendre ce risque. Après, pour vous dire la vérité, il y a aucun d'entre nous qui est très fan des casinos. Donc c'était une piste qui avait été étudiée et qui a été écarté rapidement. Et donc le parc des expos, on a pris une autre option. Il est aujourd'hui géré en régie, c'est-à-dire directement par le Grand Narbonne qui le commercialise. Et nous allons réfléchir à sa modernisation. Comment le parc des expositions peut c'est ça aussi le rôle de l'élu, c'est se projeter pas à 6 mois, 1 an, 2 ans, mais se projeter sur les 10, 15, 20 prochaines années. Comment ce module, on va pouvoir le travailler pour qu'il soit moins énergivore et qu'il soit plus moderne, qu'il puisse répondre à une demande actualisée, une demande future même.
Parce qu'en tout cas, il semble qu'il y a un regain d'activité.
Il y a un regain d'activité et aujourd'hui, on sonde ce qui contribue à l'épanouissement de ce parc des expos. Et ils nous font des demandes, des salles plus modulables, par exemple, donc un travail plus collaboratif avec l'aréna, le théâtre, le Narbovia. Donc il faut travailler dans cette réflexion de partage des usages entre tous ces équipements qui maintenant font la modernité de cette avenue Bermouli, de cette entrée est de la ville. Et donc la réflexion est en cours, mais on va rapidement prendre des décisions et des orientations pour maintenir ce parc des expositions. Et Jean-Claude Jules, vous parliez aussi des stationnements en cœur de ville. Là aussi, les berges de la Robine, c'est une zone d'aménagement concerté avec des habitations nouvelles, beaucoup de nouveaux arrivants sur notre territoire. Il faut qu'on ait vaste réflexion globale avec le parc des sports et de l'amitié, avec tous les équipements qui composent l'entrée Est, une réflexion sur les stationnements pour optimiser, faciliter les stationnements. Donc ça fait partie de cette réflexion d'ensemble qui devrait aboutir dans le courant du premier semestre 2024.
Voilà, parce que ça, c'est devenu ce quartier-là un quartier assez prestigieux pour la ville.
C'est un quartier vitrine.
Avec notamment l'aréna, le stade, le théâtre, qui se jouxte, le musée, qui sont pratiquement voisins.
C'est un quartier des loisirs, quelque part, où vous avez toutes les activités, le parc des expositions, le parc des sports et de l'amitié, le théâtre, scène nationale, le Narbovia, l'aréna. Le parc des expositions s'inscrit, alors il fait peut-être aujourd'hui un peu moins moderne que ses voisins, et c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être un peu le transformer, un peu l'amender, pour qu'il soit entre parc des expos, palais des congrès, un équipement qui soit utile et qui serve au territoire de la Narbonnaise.
Voilà, donc pour le moment, les grands chantiers et les grands projets sur la ville, mais bien entendu, Bertrand Malquier, nous aurons l'occasion régulièrement dans ce Radio Barc, par exemple, de vous retrouver pour évoquer l'avancée de cette actualité. On change alors un peu de casquette, si vous le permettez, et on passe à l'agglo. Alors, quand on passe à l'agglo, on reste quand même bien dans la Narbonnaise. Une petite polémique récente fait que lorsqu'on appelle alors, l'hôpital privé ou la polyclinique de Montredon des Corbières a décidé d'avoir un parking payant, un certain nombre de Narbonnais rouspètent parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Je crois que, d'ailleurs, Didier Mouly lui-même avait tenté quelque chose à ce niveau-là, s'était penché sur ce problème.
C'est l'œuvre de Didier Mouly qui a combattu ardemment, était monté à Paris à plusieurs reprises, rencontré les propriétaires de l'hôpital privé,
le groupe
Elsan, et donc a négocié, a réussi à obtenir cette heure de gratuité qui permettra aux visiteurs et à ceux qui pratiquent les consultations mais d'avoir une heure de stationnement gratuit. Il était quand même anormal que sur un accompagnement financier, foncier du Grand Narbonne, eh bien, il n'y ait pas un retour de l'investisseur privé vers le public de notre territoire. Donc, il y a des navettes qui sont mises à disposition, mais il fallait également qu'il y ait en contrepartie cette gratuité d'une heure pour le stationnement. Donc, c'est acté. Aujourd'hui, on a reçu le courrier du groupe Elsan. Didier Mouly en serait certainement très satisfait. Et en tout cas, nous le sommes dans cette négociation globale qu'il y a eu avec le groupe.
Alors, Eston, vous l'avez évoqué, Bertrand Malquier, en parlant de navettes. Là aussi, ça avait été demandé dès le début, puisqu'il y a à peu près deux années que cette polyclinique fonctionne. Il n'y avait pas de ligne, enfin, il n'y avait pas de bus qui fonctionnait. Ça y est, là, donc, vous l'avez évoqué, c'est acquis et il y a un bon, je crois, service de bus maintenant qui fonctionne.
Oui, alors là c'est opérationnel, mais là aussi il faut comprendre que on parle de ligne de bus, mais derrière c'est un coût important qui est supporté par le contribuable. C'est une entreprise privée, le groupe Elsan.
C'est ce que répétait Didier Mouly, justement.
C'est un service hospitalier, certes, mais c'est une entreprise lucrative par définition. Donc il faut qu'il y ait un juste équilibre des choses entre le service public qui est rendu par cette entreprise privée et le coût pour le contribuable, la participation du Grand Narbonne. Aujourd'hui, on a trouvé cet équilibre entre la desserte des bus, le stationnement gratuit et le service public, enfin, le service hospitalier qui tend vers l'intérêt général que nous livre le groupe Elsan.
Et alors, en ce qui concerne cet endroit, c'est une zone d'activité. Il était prévu initialement, je crois, ce qu'on appelle un pôle santé. Mm-hmm. Ça a été peut-être un petit peu revu dans sa définition. Et où en est-on aujourd'hui? Alors, je m'adresse là au président du Grand Narbonne.
Aujourd'hui, nous en sommes toujours dans le cadre où c'est une exclusive sur le côté médical, hospitalier.
C'est-à-dire d'accueillir des entreprises cette orientation-là.
Dans cette orientation-là, on a une discussion à mener avec Jean-Marc Jansana, le maire de Montredon, sur éventuellement une déspécialisation des activités pour permettre de pouvoir accueillir d'autres entreprises cousines ou différentes et complémentaires de ce qui existe aussi dans la zone. Mais je réserve cet échange à Jean-Marc Jansana, puisque c'est le maire de Montredon, et on aura cette discussion dans les prochains jours. Aujourd'hui, on a un foncier qui est quand même contraint sur le territoire. Se rajoute la loi climat et résilience avec une obligation de zéro artificialisation nette des sols. Et du coup, bien, il faut aussi proposer de l'emploi, créer de l'emploi sur notre territoire, et on ne peut pas trop fermer les orientations urbanistiques de certaines zones. À défaut, on perdrait du potentiel entreprise, du potentiel emploi. On est obligé d'avoir cet équilibre, là encore, c'est tout est question d'équilibre, de juste équilibre. Donc on trouvera très certainement des solutions dans les prochains jours, je n'en doute pas.
Voilà, mais ça ne sera plus un pôle uniquement médical, probablement tel que ça se profile. En tout cas, vous nous le direz dans une prochaine interview, monsieur le Président. À propos de Montredon-les-Corbières, il y a, alors là, c'est un projet qui remonte fort loin, mais c'est toujours un projet, une gare TGV au pont des Charrettes. Où en est-on, selon votre connaissance, de ces dossiers-là ?
Alors aujourd'hui, il y a des réservations foncières qui sont effectuées, d'ailleurs qui impactent des réflexions. L'aire de Grand Passage faisait partie des questionnements sur cette zone et sur l'équipement, enfin l'aménagement, pardon, de cette zone. Aujourd'hui, bien le projet, la ligne LGV est tracée, le projet est bien avancé, et donc il devrait pas y avoir trop de surprises. C'est un temps long,
alors très long, même
très long, puisque c'est un temps administratif, et donc il risque de voir le jour dans de nombreuses années encore.
Oui, voilà, donc il faut pas laisser l'espoir aux gens de la Narbonnaise dans 3 ou 4 ans de prendre le TGV.
Exactement.
À cet endroit-là. À propos du Grand Narbonne, donc vous l'avez déjà souligné, monsieur le Président, donc c'est une agglomération, donc il y a 37 communes, ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on finance des projets, ça touche l'ensemble de ces communes. Récemment, alors c'est un symbole et un bon exemple, vous avez inauguré ce qui s'appelle le quartier Malassin à Saint-Marcel. Donc voilà un exemple de ce que fait une agglomération, de la manière dont elle encourage les financements.
Alors c'est nouveau, hein, c'est très nouveau, parce que ça a été initié par Didier Mouly et ça se passe très bien. Il faut accompagner l'ensemble du territoire dans son développement et son aménagement. Il y a un règlement qui a été fait au Grand Narbonne qui prévoit une attribution de fonds de concours, c'est-à-dire d'une enveloppe financière à chaque commune à hauteur de 300 000 euros. Donc on a budgétisé pour les 37 communes 10 millions d'euros et les communes peuvent demander, quel que soit l'objet de l'aménagement. Le Grand Narbonne n'est pas juge ou arbitre. Le Grand Narbonne est le financeur, c'est l'accompagnateur, au même titre que l'État, des fois, la région, le département, accompagne la collectivité, la commune, dans son projet. Donc, effectivement, la semaine dernière, je me suis retrouvé avec le maire de Saint-Marcel, Frédéric Nunez, à inaugurer le quartier de Malassin, qui est là aussi un équipement qui modernise et qui permet un aménagement intéressant
de la commune. Alors, sur une ancienne cave coopérative.
Cave coopérative, c'est ça, il y a de l'habitation, des commerces, de l'espace public, des voiries, une salle polyvalente. C'est vraiment une réussite. Là aussi, c'est au-delà du quartier, c'est une réussite politique. Parce que c'est une succession de trois maires, Bernard Pendriez, Guillaume Heras et maintenant Frédéric Nunez. Donc il y a une continuité politique, chose très rare en politique. Et véritablement, là, il y a une intelligence collective à Saint-Marcel qui a permis la réalisation. Donc l'agglomération est venue à hauteur de ces 300 000 euros pour le fonds de concours. Et de la même façon, j'étais jeudi 30 novembre à Ginestas pour inaugurer l'avenue du Ginesto. Là aussi avec Georges Combes, le maire de Ginestas. Là aussi c'est une participation, on a participé à hauteur d'un quart, 25%, pour 170 000 euros, à cette avenue qui est la pénétrante de Ginestas et qui facilite la fluidité, la circulation de la commune.
Voilà, alors ce sont quelques exemples de fonctionnement où justement ça fonctionne bien de par l'agglo et de par ce qu'on appelle la mutualisation.
La mutualisation et le rôle facilitateur de l'agglomération.
Bertrand Malquier, on marque une seconde pause, on se retrouve pour une troisième partie où on va parler, eh bien, par exemple, de Nouveau Narbonne, dont vous étiez jusqu'ici le secrétaire
général.
Général. Et avec un avenir également qu'on va évoquer tout de suite après cette pause.